Tout de suite, on déhousse les raquettes. Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et ni toi, Martin Kenéen.
Bonsoir, je suis Frédéric Noy.
Bonsoir, je suis Gaël Faye.
Et bien, tous deux, on peut dire que, comme on dit en Kinyarwanda, vous êtes des Umuntu Wumutima, des hommes de cœur.
Ping pong, la culture sans limite.
Édito. Laissez-les masquer. Alors que la fabrique à icônes tourne à plein régime et plus vite qu'Andy Warhol aurait pu l'imaginer, nous avions un type dont les œuvres sont estimées à plus de 500 000 $ qui refusait d'être en vitrine. C'était le street artiste Banksy. Son excellent Prankumentary, documentaire en français, ne disait d'ailleurs pas autre chose avec ce titre en forme de manifeste « Exit through the gift shop », littéralement « échapper de la boutique à souvenirs ». Et voilà que patatras, cet anonymat exemplaire, ni vrai nom, ni visage, cette bravade héroïque au XXIe siècle, se retrouvait ruinée par un journaliste britannique du nom de Craig Williams, 31 ans, qui après une enquête assez poussée a lancé cette bombe. Selon toute concordance, Banksy ne pourrait être que Robert Del Naja, aka 3D, ancien graffeur et leader du groupe Massive Attack, originaire de Bristol, comme Banksy. Dernier rebondissement du feuilleton, en concert dans le quartier de South Downs à Bristol, en Angleterre, où le groupe jouait à domicile, 3D a déclaré « Bristol, I'm home !»
Rumors about my secret identity are greatly exaggerated. I used to be given a spray paint, but this actually is Banksy. In fact, we're all Banksy. Yay.
Bristol. Les rumeurs qui disent que je suis Banksy sont totalement exagérées. Nous sommes tous Banksy, oui, nous sommes tous Banksy. Banksy est une identité collective et en ces temps de division, ça ne peut pas faire de mal. Alors pour fêter ça, je vous conseille de vous rendre à l'exposition autour de Banksy, une rencontre de rue à la réserve Malakoff à Paris, où c'est François, un artiste de rue originaire de Colombes, pas du tout un collectionneur millionnaire, un anonyme, qui expose ses 120 visuels de Banksy, rencontrés par hasard en 2007. Gaël Faye, vous qui avez évolué aussi dans le milieu du street art et du hip-hop à une époque, ça vous a fait quoi d'imaginer que peut-être on allait connaître l'identité de Banksy ?
Ben ça, c'est triste, c'est comme le jour où on dit que le Père Noël n'existe pas. Non, j'abonde dans ce sens, je pense qu'on est tous Banksy.
Frédéric Noy, est-ce qu'on peut dire que vous aussi, à votre façon, vous êtes un street artiste, un artiste de la rue, avec votre appareil photo en bandoulière, dans les rues en particulier d'Ouganda où vous vivez ?
Je pense que mon approche est moins anonyme que la sienne, c'est-à-dire que les gens qui regardent mes photos peuvent m'identifier parfaitement, et surtout ceux que je capture et avec qui je partage des moments savent très bien qui je suis. En réalité, j'essaie de tendre vers ce qu'il fait au sens où je souhaiterais disparaître, ne pas être visible de mes sujets, mais c'est juste une asymptote que je n'atteindrai jamais.
Ping-pong, c'est sur France Culture.
Alors, on ne saurait dire que Gaël Faye, vous êtes Gabi, votre héros, le héros de votre premier roman, donc Petit Pays, publié chez Grasset. Ce que l'on peut dire, c'est que Gabi à 10 ans et que il opère un retour, en tout cas le narrateur opère un retour quand tout a commencé et tout, c'est en particulier eh bien les prodromes et ensuite le déferlement de la guerre au Burundi où il vit comme un réfugié avec sa mère rwandaise et avec son père français, et puis le génocide au Rwanda en 1994. Ce roman explore ce parcours, cette expérience, et je crois que vous avez accepté de nous en lire en live, en direct, un extrait.
À allumer la radio. Et le rythme entraînant de la chanson de Papa Wemba a aussitôt envahi l'habitacle. Les cousins se sont mis à gigoter et Christian m'a regardé d'un air malicieux en soulevant ses sourcils, et en remuant les épaules comme un danseur éthiopien. Tante Sebi s'est empressée de monter le son de la radio. Depuis le coffre, je voyais les têtes se balancer de gauche à droite au rythme de la musique. Au refrain, les filles chantaient. Cela amusait maman qui se retournait pour me jeter des clins d'œil complices. Un animateur de la radio faisait le clown, chantait par-dessus la musique. Je ne comprenais que certains mots dans ces phrases en Kinyarwanda. Radio 106 FM, radio sympa, Papa Wemba. Sur un ton enjoué, il reprenait le refrain, parlait, plaisantait. Un vrai zouave à l'antenne. Je m'étais prise au jeu. Moi qui pourtant détestais danser, je me trémoussais, frappais des mains n'importe comment et chantais « Eh, eh, eh » avec enthousiasme. Quand soudain, j'ai remarqué que plus personne ne bougeait. Les visages des cousins avaient changé d'expression. Christian était figé. Tante Sebi a brusquement éteint la radio. Plus personne ne parlait dans la voiture. Sans voir le visage de maman, je sentais son malaise. J'ai regardé Christian. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Des bêtises. C'est l'animateur de la radio, ce qu'il disait. Et qu'est-ce qu'il disait ? Il a dit que tous les cafards doivent périr. Les cafards ? Oui, les cafards. Les Inyenzi. Ils utilisent ce mot pour parler de nous, les Tutsis.
Gaël Faye, donc vous venez de nous lire un extrait de votre roman Petit Pays. Et cet épisode, à un moment où votre héros Gabi, avec sa famille, eh bien franchit la frontière du Burundi où il vit, donc à Bujumbura, pour se rendre à un mariage au Rwanda, il semble que il condense peut-être d'une certaine façon tout ce qu'il y a dans votre roman, c'est-à-dire cette joie sans entrave, sans retenue que vit votre héros Gabi, qui est encore enfant, et puis tout d'un coup l'irruption, et on a envie de dire avec vous, l'éruption de la haine.
Oui, c'est un moment où Gabi vient juste d'apprendre l'existence au Burundi et au Rwanda de ce qu'on appelle les ethnies. Il apprend suite à une dispute à l'école de ses camarades que le Burundi et le Rwanda se divisent en deux catégories, d'un côté les Hutus et de l'autre les Tutsis. Et donc il est au Rwanda et la question ethnique est encore plus présente qu'au Burundi. Parce que même à la radio, là il s'agissait donc de la radio RTLM, Radio-Télévision des Mille Collines, qui est une radio qui, pendant les trois mois de génocide, a appelé la population à massacrer les Tutsis. Et donc à ce moment-là, on est en 94, c'est en février 94, mais déjà des mois avant le génocide, cette radio faisait un travail de propagande ethniste et donc le petit Gabriel qui jusqu'à présent pensait qu'il vivait dans un monde joyeux fait de couleurs familial découvre qu'il y a des frontières invisibles parce que ces Hutus et ces Tutsis n'ont pas de différence. Ils parlent la même langue, ils vivent sur le même territoire. Ils ont les mêmes religions, etc. Et donc, lorsqu'il demande à son papa « Mais quelle est la différence ?», très embêté, le père lui répond « Ils n'ont pas le même nez. » Parce qu'il faut bien trouver une différence.
C'est pas un hasard si, au-delà de cette radio Mille Collines qu'on a rebaptisée Hate Radio dans cette pièce de Milo Rao, qui reproduisait donc ces discours de haine entre deux chansons enjouées. En fait, on la retrouve dans votre roman, comme dans beaucoup de récits sur le Rwanda, mais pas que cette radio-là. En fait, la radio est globalement une actrice totale de ce récit. C'est-à-dire que RFI, et là aussi pour informer, vous entendez un peu de rumba zaïrois, dans le fond. Vous entendez aussi parfois ce genre de choses lorsque la situation bascule au Burundi. Le crépuscule des dieux de Wagner. Il y a une musique classique qui est diffusée à la radio à chaque coup d'État. Et c'est le cas en 1993 parce que avant qu'il y ait le début du génocide en avril 94, il y a d'abord donc cet assassinat du nouveau président burundais. Quel rôle elle joue la radio dans ce fil narratif? Pourquoi vous lui avez donné cette présence, cette épaisseur?
Bah, c'est vraiment l'instrument de communication dans cette région. Tout le monde a une petite radio. Alors maintenant, la radio, on l'écoute sur les téléphones portables. C'est l'univers sonore dans lequel j'ai baigné. Je me souviens toujours du bruit des robinets qui coulent, des oiseaux, et toujours une radio qui grésille dans le fond, souvent à un volume très très fort, avec soit des infos, soit de la musique. Et puis effectivement, la musique classique, les jours de coup d'État.
Eric Noy.
C'est une mise en abîme enfin, incroyable, parce que le Crépuscule des dieux de Wagner était la dernière musique classique qu'on écoutait à l'Opéra de Berlin avant la chute de Berlin dans la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les Russes, l'armée rouge, arrivaient, étaient dans les faubourgs, donc le régime nazi, et on est en train d'évoquer le génocide. Je trouve qu'il y a des cousinages historiques absolument ahurissants.
Oui, avec cette histoire également des nez. Me demander pourquoi j'avais choisi le nez, mais c'est aussi une partie de l'anatomie que l'on attribuait aux Juifs d'Europe, et c'est vrai qu'on appelle souvent les Tutsis à tort ou à raison, mais les Juifs d'Afrique, parce qu'il y a ce cousinage dont vous parlez, les cafards d'un côté, les vermines, le virus de l'autre. Donc on voit que les génocides s'appuie toujours sur les mêmes choses, la déshumanisation d'abord d'une partie de la population.
Et c'est intéressant et horrible à la fois, parce que même au Nigeria, au moment où il y a eu la guerre du Biafra, donc la minorité Igbo opposée à la majorité Yoruba et Hausa, j'ai vécu au Nigeria et les Igbo étaient aussi, ils sont très commerçants, donc on disait ce sont les Juifs. Du Nigeria, donc c'est ça où on voit qu'il y a des mises en résonance historiques. Bon, ils n'ont pas fini, il n'y a pas eu de génocide comme il y a eu au Rwanda, mais on revient, l'histoire est en train de tourner en rond, et notamment sur la terminologie. Et j'avais vu dans votre livre, je l'ai lu effectivement sur les longs nez, et je trouvais ça à la fois bouleversant, parce qu'il y avait un double niveau à la fois comique sur on dit un enfant long nez, le nez fait la différence, et puis quand on a un deuxième niveau de lecture, on voit ce que ça veut dire derrière.
Il y a aussi ce parallélisme entre vos deux projets, parce que Frédéric Noy, vous présentez Ekifire, qui veut dire les demi-morts en Luganda. Ça fait partie de la grande famille des langues bantoues, dont fait partie aussi le Kirundi et le Kinyarwanda. Donc voilà, on est dans ce cousinage pour le coup de la langue. Les Ekifire, ce sont les demi-morts, ce sont ces combattants arc-en-ciel, comme on pourrait aussi les appeler, que vous photographiez au quotidien, et qui sont exclus parce qu'homosexuels, qui continuent à se battre pour exister tant bien que mal, malgré des lois selon les pays très différentes. Alors, je vais vous laisser peut-être nous raconter ça, mais il y a donc d'un côté les demi-morts et de l'autre côté les Inyesi, les cafards. On retrouve donc ces espèces de... Qui les appelle les Ekifire, en fait?
Donc c'est toute proportion gardée, parce que c'est absolument incomparable,
oui, bien
évidemment. Mais Ekifire, au départ, donc c'est du Luganda, une langue bantoue, comme vous l'avez dit, et qui veut dire quelque chose qui a cassé, qui ne fonctionne plus au départ. On l'attribue aussi à des objets, et quand on parle d'une personne, c'est quelqu'un qui est comme un fantôme, qui est là, mais qui n'est pas là, comme elle ne fonctionne pas, sous-entendu, dans la société qui l'environne. On peut considérer que c'est comme un fantôme. Il est vivant, mais mort. Donc c'est le demi-mort, et ça a été employé la première fois pour qualifier la minorité sexuelle en Ouganda par le président actuel, Yoweri Museveni, qui s'adressa à la foule au moment où une loi qui a été cassée depuis, qui est mondialement connue comme Kills the Gay, avait été promulguée, et il disait à la foule, donc dans une sorte de connivence en s'adressant à leur inconscient collectif, nous on a un mot chez nous pour qualifier ces gens-là, donc sous-entendu les minorités sexuelles, ce sont les Ekifire, donc les demi-morts.
Et vous dites que au départ, ça désigne quelque chose qui est cassé. Or, cette question, on la retrouve chez vous, Gaël Faye. Je ne sais pas si tous les Tutsis ou tous ceux qui ont survécu au génocide sont quelque part à devoir s'affronter avec une demi-mort. En tout cas, il y a la question de la réparation et d'être mécanicien pour votre héros Gabriel. Enfant, il veut être mécanicien, ça lui semble la panacée. Est-ce que vous, en écrivant ce roman, vous vous êtes fait un petit peu mécanicien? Et si oui, mécanicien de quoi?
Sachant que Gabriel abandonne ce rêve parce que justement, il n'arrive plus à réparer.
Oui. Oui, bien sûr, si j'en suis venu à l'écriture, c'était pour, je dirais pas réparer, mais rassembler peut-être une identité éparpillée, une histoire qui volait dans tous les sens, comme le héros de mon livre, ma mère est rwandaise, Tutsi, même si aujourd'hui au Rwanda on ne se qualifie plus de Tutsi, mais
c'est interdit par la Constitution. Hein.
Exactement, et je pense que c'est bien. Et donc oui, il y avait une histoire de réfugiés dans cette famille-là que qu'on ne m'a pas racontée et que j'ai dû ressentir. Il y a ensuite eu ces deux années de guerre entre mes 11 ans et mes 13 ans, et effectivement. Quand je suis arrivé en France précipitamment, il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de. On n'avait jamais évoqué le mot génocide. On disait les événements.
Cette chose qui n'était pas la guerre, vous écrivez aussi.
Oui, exactement. Donc, il a fallu faire un travail de reprise de soi-même. Et moi, en tout cas, je suis passé par l'écriture. Ça m'a permis de redérouler. Mon histoire, redérouler cette histoire. Et ce livre, c'était aussi une manière pour moi de retrouver les sensations d'avant la guerre. Parce que les deux ans de guerre m'avaient volé donc ces souvenirs-là. J'avais plus vraiment d'image de ce qu'avait été la vie avant.
Des souvenirs heureux, donc, en particulier.
Des souvenirs heureux, effectivement. Et donc, c'était aussi le but de ce livre, c'était de me remettre dans la peau d'un petit garçon qui vivait heureux au grand air dans ce petit paradis. Et donc la guerre, elle n'arrive jamais brutalement, elle arrive toujours par petites touches, par impression. Et j'ai essayé aussi de retrouver ces petites impressions.
Est-ce que dans la langue, justement, vous n'avez pas fait ce travail impressionniste de, on va dire, d'intégrer un petit peu de vos souvenirs dans ce que peuvent être aussi vos expressions que vous avez depuis que vous vivez en France, hein. Je pense à, par exemple, « haut comme trois mangues »,« deux cœurs gonflés d'espoir comme le soleil des indépendances »,« un ficus cathédral »,« s'ennuyer comme des varans crevés ». Oui. Vous avez souhaité comme ça télescoper pour que... Pour finalement, ça vous accompagne aussi dans votre langue?
Oui, bien sûr. C'est vrai. Je me suis beaucoup amusé en fait en écrivant ce livre. Contrairement à mon premier album Pili Pili sur un croissant au beurre, qui était aussi composé de chroniques autobiographiques, qui était beaucoup plus difficile à accoucher. Moi, j'ai plus ri que pleuré en écrivant ce livre. Et là, même la violence, elle est très atténuée par rapport à la violence qui a eu lieu dans ces régions à ces époques-là, elle est atténuée parce qu'il y a le regard de l'enfant. Et il y a aussi beaucoup de symboles. Il y a la mère de Gabriel qui, elle, va aller au plus près de ce qui s'est passé pendant le génocide.
Et qui va y laisser son âme.
Exactement. Et c'est sur elle, en fait, que tout va se cristalliser, et pour moi elle représente les rescapés du Rwanda aujourd'hui, qui vivent, certains bien sûr dans un dénuement, mais même au-delà de ça, qui vivent tous les jours avec le génocide, dans une société qui en apparence a l'air normale, qui est dans une banalité, un quotidien, mais leur vie s'est arrêtée en 94, et ils le disent, quand on parle avec eux, ils le disent. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka, gahugu gatoyi,
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunyweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunyweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunyweni wapuye, waragoweni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Petit pays,
je t'aime, ça j'en suis sûr.
Petit pays, une chanson signée Gaël Faye, qui, avant d'être primo-romancier en lice pour le Goncourt et déjà lauréat du prix FNAC 2016, eh bien, est auteur-compositeur. Vous nous en avez dit un mot. Pili-pili sur croissant au beurre, sur un croissant au beurre. C'était votre premier album en solo. Il y a cette chanson du retour. Mais est-ce que justement, votre héros Gabriel qui entend faire un retour, il fait véritablement un retour ou... Est-ce qu'il ne fait pas une marche en avant pour inventer le futur, cette opération, ce livre? C'était quoi? C'était faire un retour un peu égoïste pour retrouver ses joies et ses blessures, ou c'était inventer l'avenir?
Vous parlez de moi ou de Gabriel?
Peut-être un peu des deux.
Non, parce que c'est différent. Gabriel, il y a deux voix, bien sûr. Il y a la voix de Gabriel enfant, mais aussi la voix de Gabriel adulte qui ouvre et clôture le récit.
Et qui a fait un retour comme vous, qui vivait depuis un an donc à Kigali, au Rwanda.
Exactement. Lui fait le retour parce que il est coincé dans ces années-là. Il est bloqué avec cette histoire. Et il ressent également que quelque chose l'attend. Et donc il y retourne, il trouve une bonne excuse déjà.
Qu'on ne révélera pas.
Voilà, il reçoit un coup de fil et donc il retourne pour ça, mais pour autre chose aussi. Moi, c'est différent. J'ai voulu aller au Rwanda parce que je ne connaissais pas le Rwanda. Comme je vous le disais, je suis, j'ai deux nationalités, française et rwandaise. J'ai grandi au Burundi, donc les deux pays que je connais, c'est le Burundi et la France. Et je ne connaissais pas le Rwanda. Je l'ai visité ensuite régulièrement chaque été en vacances après le génocide, parce que ma famille rwandaise qui était réfugiée à Bujumbura est retournée vivre au Rwanda. Mais je connaissais pas ce pays et j'avais tendance à superposer les images du génocide à la réalité que j'avais en face de moi lorsque je m'y rendais en vacances. Et je voulais dépasser aussi cette réalité-là. Je voulais m'inscrire dans le quotidien, dans la banalité, amener mes enfants à l'école, acheter du pain, me disputer avec le mécanicien. Voilà, des choses très basiques. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux passer 10 jours sans penser au génocide en étant au Rwanda. Et pour moi, c'est beaucoup.
Dans le titre qu'on a écouté, Petit Pays, donc qui préfigure ce roman, vous dites « J'ai passé l'âge des pamphlets ». Quand on se penche sur ce premier roman, Petit Pays, à cette phrase incipit, je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Et puis, on se retrouve avec la phrase de clôture qui nous dit « Je ne sais pas comment cette histoire finira, mais je me souviens comment tout a commencé ». Il y a une volonté de boucle littéraire. Est-ce qu'il y a eu effectivement un moment de déclic du passage justement de ce texte que vous aviez écrit pour la musique et de cette écriture de roman? Comment tout d'un coup vous êtes dit « Tiens, je vais commencer comme ça et je vais réussir à la raconter comme ça, cette histoire ».
Pour être honnête, c'est venu au fil de l'écriture. J'avais pas calculé mon coup. J'aurais bien aimé. Ce roman, ça a été un apprentissage pour moi. Jusqu'à là, j'écrivais des chansons, bien des nouvelles ou des pièces de théâtre, des choses comme ça. Là, le roman, ça m'impressionnait assez. J'avais lu Céline avant, donc je me disais que c'était pas pour moi. Et donc quand je m'y suis mis, voilà, j'ai essayé plein de choses. Il était deux fois plus long. Ça me paraissait logique. Une fois que j'ai mis un peu l'histoire en place, ça me paraissait logique que ce personnage, avec cette voix d'enfant qui déroule son histoire, clôture ce livre et en ouvre un autre. Et moi, j'aime beaucoup, j'utilise souvent l'image du soleil dans mes chansons. Je sais pas, j'ai quelque chose avec le soleil parce que, voilà, il y a cette histoire du soleil qui se couche et qui se lève. Vous savez, au Burundi, au Rwanda, mais en Ouganda, c'est pareil. On est sur l'équateur et les jours sont toute l'année au même rythme. Le soleil se lève à la même heure, se couche à la même heure. Et donc, j'avais envie d'avoir cette espèce de... Voilà, comme si c'était une journée qui s'était clôturée et puis qu'un nouveau soleil allait se lever.
Frédéric Noy, est-ce qu'on peut dire que vous, donc, qui vivez en Ouganda, mais qui avez travaillé au Nigeria, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi au Burundi, mais aussi au Rwanda, en particulier pour Ekifiré, donc cette série de photographies qu'on peut voir à Perpignan dans le cadre de Visa pour l'Image, sur les minorités sexuelles en Afrique de l'Est, donc la communauté LGBTI, est-ce que vous vous sentez aussi en apprentissage permanent quand vous faites chaque jour des nouvelles photos avec la lumière, avec le soleil pour allier, pour complice? Est-ce que voilà, vous sentez en apprentissage comme un enfant et vous essayez de retrouver
je me sens comme cette innocence en apprentissage, comme un imposteur, plus que comme un enfant, c'est-à-dire que je m'intéresse justement avec ce travail Ekifiré à une communauté sur trois pays en étant quelqu'un qui ne partage pas leur existence, leurs craintes, leur origine, leur contexte, leur avenir, les défis. En réalité, sur le papier, je ne partage quasiment rien. Je suis tout le temps donc dans l'apprentissage parce qu'il m'est important d'être empathique, non pas pour ressentir comme un statut de victime ou dramatiser une histoire, mais pour être capable de vibrer sur ce qu'ils sont, pour être capable de le documenter, de le partager, mais de le partager en laissant une trace dans l'esprit des gens que je photographie. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir l'impression de partager en prenant quelque chose sans rien laisser derrière moi. Partager aussi parce qu'il doit, les gens que je photographie, donc les LGBTI, donc souvent des lettres se rajoutent, hein, mais il faut qu'ils soient capables et qu'ils aient la possibilité de m'interroger. C'est-à-dire d'en connaître quasiment autant sur moi que moi j'essaye d'en apprendre sur eux. Et là, je pense qu'on a à ce moment-là une relation équitable. Et cette relation équitable me permet d'être dans une intimité qui me permet d'avoir ce que je pense être à des photos, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais qui sont honnêtes. Et pour moi, l'honnêteté de l'approche est une qualité cardinale pour un photojournaliste.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong, le sport radiophonique qui, on l'espère, échange de manière honnête et équitable. À suivre, un photographe du quotidien contre le sensationnalisme. Vous venez de l'entendre, c'est Frédéric Noy. Et puis un primo romancier des souvenirs du quotidien, Gaël Faye.
Musique. Ping Pong.
Musique.
La culture sans limite.
Mais tout de suite, donc, un petit peu de musique avec un garçon qu'on aimerait parfois réduire à son physique. Pas comme un tutsi, disons-le, puisque c'est pour mieux l'aimer. Mais c'est un garçon qui se révèle polyphonique et qui s'échappe toujours comme un ailier de rugby ou bien comme Jimi Hendrix aimait à le dire. Il est notre disque du jour. Petit A, parce que l'on soit séduit ou non par sa barbe de pop et son collier de pirate, il faut bien reconnaître qu'il est un homme, un vrai, capable, je cite, de chialer pendant 2 heures après avoir écouté un solo de saxophone. Petit B, parce que tel un disciple de Rabelais, il applique à la lettre la devise de l'abbaye de Thélème, fait ce que voudra, lui qui joue du jazz, de la côte ouest ou de la jeune Europe, mais aussi de la pop, qui chante avec Maestria et qui joue la comédie avec les chiens de Navarre, comme dans le prochain Apnée qui sortira en octobre. Et puis enfin, petit C, parce que Thomas de Pourquerie a ressuscité Sun Ra avec le groupe Supersonic, une musique noire et émeraude venue de Saturne qui, dit-il, vous tourne boule de l'épiderme jusqu'aux cellules. La preuve avec le titre Love in Outer Space.
Reaches out to a lover like me again. Sunrise in love, 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 everlasting. Sunrise, love in its speaks to me in metaphysical harmony.
Thomas de Pourquerie et Supersonic Play Sun Ra, c'est le nom de l'album publié par, distribué par l'autre distribution. Le morceau s'intitule Love in Outer Space. Thomas de Pourquerie, eh bien, sera en concert à la Cité de la Musique à Paris le 17 septembre dans le cadre de la Phantom of the Paradise Party, et il sera également un invité d'honneur des 10 ans de la salle de Pantin, la Dynamo, à partir du 30 septembre, hein, ce Dynamo Fest, à notre partenaire Le Figaroscope, grâce à qui nous vous parlons ce soir de Thomas de Pourquerie, eh bien, vous le retrouverez demain dans les kiosques.
Not because I don't want to show my face, but because of my comrades, who, for obvious reasons, cannot show their faces because of persecution, because of arbitrary arrest, because of evictions, but also to tell the people out there, Ugandans, you don't know who is behind this mask. It could be your father you're condemning. It could be your mother, your daughter, your teacher, your doctor.
Nous sommes en Ouganda, en août, oui, lorsque la Gay Pride a été interdite et qu'une Gay Pride clandestine s'est montée. Cette personne transgenre et masquée dit « Je ne porte pas un masque pour cacher mon visage, mais pour soutenir mes camarades qui ne peuvent pas montrer le leur. À cause des persécutions, des arrestations, des enlèvements, ce masque, c'est aussi pour dire aux Ougandais qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière. Cela pourrait être votre père, votre mère, votre fille, votre professeur, votre docteur. » Frédéric Noy, justement, vous avez une manière d'aborder ces personnages qui sont plus que des sujets de photographie pure et dure dans cette exposition qui ferait qu'on voit à Visa pour l'image en ce moment à Perpignan, qui n'est pas de l'ordre de l'actualité. C'est pas parce qu'il y a l'interdiction d'une Gay Pride en Ouganda, où il faut le rappeler, la fameuse loi de mort aux homosexuels a été refusée, mais il y a quand même un climat très difficile. C'est pas ça qui vous emmène là-bas. Vous arrivez avant et presque contre l'actu, n'est-ce pas?
J'ai la paresse et la faiblesse de suivre ma nature, et ma nature de photographe, c'est d'être effectivement plutôt dans les interstices, dans ce que j'appelle moi les creux de l'actualité. D'autres photographes font très bien le news, sont très bien dans les conflits. Il faut qu'ils le fassent. Ils le font selon leur nature. Moi, j'avais entamé un travail. Ça faisait longtemps, très longtemps, que je voulais travailler sur la question de l'homosexualité en Afrique subsaharienne, parce que je pense que c'est le dernier tabou en matière de droits de l'homme, et que c'était une façon d'interroger l'Afrique contemporaine, à la dernière limite de ce qui peut titiller la sensibilité des opinions publiques. J'avais démarré effectivement au Burundi, puis le Rwanda.
Le petit pays dont parle Gaël Faye dans son roman.
Le petit pays, puis le petit pays voisin au Rwanda, puis l'Ouganda où je demeure, où j'habite. Pourquoi ces trois pays? Parce que pour moi, ils étaient dans un contexte géopolitique. Évidemment, je fais abstraction du génocide, mais ils sont cousins, voisins, un peu comme si on s'intéressait au sud de la France, l'Espagne et l'Italie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des liens de familiarité, de cousinage en matière de culture et d'appréhension du monde qui nous entoure. Et par contre, comme un scientifique, je cherchais à faire varier qu'un seul critère, et le seul critère qui variait, c'était la loi. Sur l'homosexualité, on a trois situations différentes. Il y a celle du Rwanda, alors c'est horrible à dire, très cruel et presque indécent, mais il n'y a pas de loi anti-homosexualité, et ce qui doit correspondre à la seule conséquence positive du génocide, c'est-à-dire que le régime actuel, le président Paul Kagame, a refusé qu'une partie de sa population soit stigmatisée pour quelque raison que ce soit, en pensant bien évidemment à ce qui est décrit dans le roman de Gaël, le génocide des Tutsis, et du coup les minorités homosexuelles, mais les minorités sexuelles étaient aussi concernées par ça. Au Burundi, il y a une loi qui est arrivée en 2009, hein, il y a une poussée notamment des évangélistes américains, qui punit de 7 mois à 2 ans d'homosexualité et d'une amende, tandis qu'en Ouganda, c'est le code pénal britannique de 1950 qui est encore actuel, hein, qui punit de la prison à vie. Alors moi, je savoure toujours la façon dont c'est rédigé. On est puni de prison à vie, quelqu'un qui a une connaissance charnelle de quelqu'un de même sexe. Et effectivement, comme vous l'avez précisé, il y a une parenthèse, pas enchantée mais maudite, en 2014, avec le vote de la loi Kills the Gay, qui a été mondialement connue, mais qui a été cassée par le Conseil constitutionnel ougandais en août suivant. Et on est dans un pays où, effectivement, le seul pays de l'Afrique subsaharienne, à l'exception de l'Afrique du Sud, où il y a une Gay Pride.
Et votre approche, du coup, dans cette histoire, c'est votre approche, justement, du quotidien, qui est proche de celle de Gaël Faye?
L'approche qui m'intéressait, c'était pas du tout la victimisation, pas du tout le sensationnalisme, pas du tout dire combien ça, c'est tellement ces pauvres homosexuels, vous vous rendez compte, ou ce sont des survivants, parce que je trouve que ça serait galvauder le mot, notamment par rapport à ce que décrit Gaël, enfin les survivants. Mais c'était plutôt être dans le quotidien des gens, être dans la description. Presque, moi je suis candide au pied du photojournalisme, c'est qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel? C'était ça la question. Qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel tous les jours dans des pays qui l'interdisent ou qui stigmatisent, parce que même si au Rwanda il n'y a pas de loi, il y a quand même une stigmatisation sociale et familiale. Donc ça veut dire être dans le corps social, dans le corps familial des gens. c'est-à-dire voir comment ils vivent, qu'est-ce que ça veut dire. Et l'idée qui était derrière, bon, que j'ai découvert au fil du temps, comme Gaël découvre des choses au fil du temps en écrivant, c'est se dire que mais finalement, ce qui s'est apparu, c'est que je parlais beaucoup de douleur, et je parlais aussi beaucoup d'êtres humains qui nous ressemblent, enfin qui ressemblent à la majorité que nous sommes, enfin les hétéros, quoi. Et c'était derrière l'idée, c'était de se dire... ce sont des êtres humains comme nous, et au fait, ils sont homosexuels, mais c'est une sorte de détail.
Alors précisément, pour répondre à cette question, tellement vaste, Frédéric Noy, vous allez dans toutes sortes de directions à travers votre travail photographique. Donc on peut découvrir à Perpignan jusqu'à dimanche 11 septembre, et puis qu'on pourra peut-être bientôt découvrir aux éditions Neus, donc ce travail intitulé « Équifiré ». Vous allez... dans des cimetières blancs sous des palmiers secs, vous allez dans des tribunaux, vous allez dans les locaux d'associations, dans l'espace public et dans l'espace privé, sur la plage et dans le salon. On voit des gens qui se maquillent, qui portent des habits de lumière, mais aussi des habits de prière ou des habits du quotidien. Parmi toutes ces images, puisque vous en avez quelques-unes sur votre tablette, c'est la magie de la radio aussi, est-ce que vous pourriez en choisir une qui puisse décrire votre travail et certaines des réponses que vous avez trouvées à cette question?
C'est vrai qu'il y a, c'est intéressant ce que vous dites, parce que en vous écoutant, je découvrais énormément d'angles et d'histoires, et je l'avais, enfin c'est stupide à dire, presque pas remarqué. Une image que je pourrais retenir, et je pense aussi que ça évoquerait quelque chose à Gaël, c'est le cimetière de Bujumbura, donc au Burundi. C'est effectivement un plan d'ensemble très très large. On voit les tombes derrière. C'est une photo qui est prise en plongée, c'est-à-dire que j'ai été monté sur un petit muret parce que je voulais sentir vraiment la profondeur du cimetière. Et il y a une personne qui est un trans burundais qui est debout sur une tombe et qui est là en train de se recueillir. Il n'est pas debout sur n'importe quelle tombe, il est debout sur la tombe de Georges Kanouma. Georges Kanouma, alors, pour ceux... pour qui ça évoquerait quelque chose, c'est le Harvey Milk burundais, c'est-à-dire la personne qui a vraiment la première au Burundi, dit il faut sortir de ce placard, il faut exister, il faut arrêter de se cacher. Il a lancé cette dynamique, cette envie cette appétence pour l'existence, pour vivre et vivre aux yeux de tout le monde. Il est mort du sida en tournant des années 2000, et sa tombe est le lieu à Bujumbura très régulièrement, pas d'un pèlerinage mais d'un retour en groupe de la communauté LGBTI burundaise, et de temps en temps des individus comme sur cette photo viennent s'y recueillir, viennent pas chercher conseil mais peut-être chercher des forces auprès de quelqu'un qui a été le premier à leur rappeler et à leur dire que le changement naîtrait avant tout en eux, par eux. Et la personne qui est sur cette tombe, c'est une personne qui m'a dit, on a fait de longs entretiens, et dont je me souviendrai toujours, la fin de son entretien, c'était, mais on peut nous faire tout ce qu'on veut, on peut nous mettre en prison, on peut nous ignorer, on peut nous tabasser, mais nous sommes là présentement. Nous sommes là présentement. Donc il disait, avec un vocabulaire à la belge, puisque c'est le Burundi, je trouvais ça aussi fleuri, mais c'était très fort, c'est-à-dire que quel que soit ce qu'on fait, on peut nous ignorer, mais on est là, quoi. On est là, et je trouve que ça résume énormément beaucoup de choses, et notamment l'histoire qui est relatée par Gaël, c'est que toutes les minorités, quelles qu'elles soient, on peut tout leur faire, mais elles sont là, quoi. Elles sont là.
Gaël Fay, oui. Vous voulez réagir?
Cette photo me touche beaucoup, parce que j'ai beaucoup de mes amis dans ce cimetière, et d'ailleurs, le livre s'ouvre... je le dédie à une personne qui s'appelle Jacqueline, et sa tombe est sur cette photo, donc ça me touche beaucoup. C'est dans la plaine de la Ruzizi, après l'aéroport, et j'allais jouer là-bas quand j'étais petit, et il n'y avait que quelques tombes, et après la guerre on a vu ce lieu qui je pense n'était pas destiné à devenir un cimetière, mais s'agrandir. Et c'est un lieu très fort. Merci pour cette photo.
Et par rapport aux images, il y a une réflexion dans Petit Pays, ce premier roman, qui est aussi sur les images qu'on nous impose, ouais. On va dire, sur le plan médiatique. Il y a les migrants, par exemple, qui fuient la guerre. On ne dit rien de ce pays en eux, écrivez-vous. Ouais. Ouais. Ces images disent le réel, pas la vérité. C'est ça que vous vouliez raconter, ce pays qu'on a en soi et qui n'est pas présent dans les images?
Oui. Je pense que on est dans une région, malheureusement, où on parle souvent pour nous. Je crois qu'il est important aujourd'hui que les gens aussi parlent de leur expérience, parlent à hauteur de leur propre humanité, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. C'est ce que je souhaite vraiment pour cette région et surtout pour le Burundi, parce que il y a un blackout et c'est encore des traditions, c'est des cultures du verbe. On se dit les choses, donc on a pour les gens, même quand j'écrivais ce roman, on me disait pourquoi tu écris un roman, enfin, on peut discuter. Viens au cabaret.
On va au cabaret. Donc, voilà. Au cabaret, on est dans le noir, on boit de la bière
Exactement.
Chaude et on parle.
Et moi, je répondais aux tontons qui me disaient ça. Je leur disais, j'écris parce que vous ne nous avez pas raconté, vraiment, par bribes comme ça. Non. J'écris pour un peu dire ce que vous ne nous avez pas raconté. Le génocide, comme je disais, a tout effacé. Les 40 ans de vie de réfugié, il n'y a pratiquement aucune trace. En tout cas, dans la littérature, elle n'existe pratiquement pas. Dans les photos aussi, je fais un travail en ce moment avec les photos d'un monsieur qui s'appelle Kamunzinzi, qui avait un studio photo à Bujumbura. Et il a photographié un peu à la Malik Sidibé tous les réfugiés du Rwanda. Et puis, c'est des photos qu'on a tous dans nos familles, des très belles photos.
Photos de studio, oui.
Studio, ouais.
En pose.
Exactement. Mais sauf que chacun les a chez soi et on n'en fait rien. Et ce monsieur a disparu et pourtant il a laissé, il a fait des milliers de photos, il a photographié tout le monde. Et voilà, c'est quand je dis il faut qu'on raconte nos histoires, il faut qu'on rapidement qu'on se dise parce que sinon ça s'efface. Donc merci beaucoup.
Alors il y a un silence que d'une certaine manière vous osez enfreindre, Gaël Faye, avec ce roman Petit Pays. Et vous aussi, vous aimez, vous le dites, Frédéric Noy, vous approchez et transgressez les tabous. Le tabou, c'est un terme que vous employez volontiers. Donc je suis allé replonger chez ce bon vieux Sigmund Freud, qui dit notamment dans Totem et Tabou, bien sûr, que l'homme qui a enfreint un tabou devient lui-même tabou, car il possède la faculté dangereuse d'inciter les autres à suivre son exemple. Est-ce que vous-même, qui vivez depuis de longues années sur le continent africain, et en particulier en Ouganda, où il y a une partie de votre travail photographique pour cette exposition sur les minorités sexuelles, vous êtes devenu tabou? On est jaloux de vous parce que vous avez osé parler avec ces gens de la communauté LGBTI?
Je ne pense pas être arrivé à ce stade. Peut-être que c'est en germe, puisque c'est vrai que c'est maintenant que ce travail, on en parle régulièrement, on en parle pas mal. Il est vu, il est montré, on y fait référence. Mais la réalité est plus compliquée en Ouganda, c'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, c'est un vrai tabou auprès des opinions, des populations nombreuses, mais on sent qu'auprès des autorités, c'est à la fois tabou et à la fois quelque chose qu'il faudra de toute façon accepter à terme, parce que l'Ouganda, comme tous les pays du monde, ne vit pas en suspens, en relation avec des voisins et des bailleurs de fonds. Et au moment où la loi Kills the Gay est arrivée,
pour tuer les gays.
La peine de Kills the Gay, la peine de mort aux gays, c'est-à-dire que ça allait jusqu'à la mort si on était convaincu de l'homosexualité. Il y a une forte pression internationale. Donc, oui, le tabou est là, mais il y a un contre-pouvoir, un contre-poids qui est notamment donné par l'extérieur.
Mais comment du coup vous avez eu envie d'aborder ce contre-poids, ce contre-pouvoir du quotidien? C'est-à-dire que finalement, vous parlez du Harvey Milk burundais, mais vous n'avez pas du tout une approche, on va dire, militante, politique dans le récit de ces combats. Comment est-ce que vous avez justement voulu les mettre en scène? Les raconter par l'image.
Par rapport au militantisme, il se trouve qu'effectivement, je pense qu'il ne faut jamais commencer un travail photojournalistique. Enfin, moi, je fais ce que j'appelle la photographie documentaire à cause d'une idée militante. Mais le militantisme est une conséquence de ça. C'est-à-dire que soudain, je me suis retrouvé d'un côté de la barrière qui était objectivement allié de la cause. ce qui me gêne pas, vu que c'est ma tendance naturelle à plutôt être intéressé et soutenir les minorités. Donc le militantisme étant une conséquence, mais pas une cause, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir une approche anthropologique et ethnographique. C'est d'écrire quelque chose, de décrire des E et accent aigu, et d'écrire des apostrophes, écrire quelque chose d'une histoire. Sans savoir où elle me mène, je sais d'où je pars, où va-t-elle me mener, c'est un peu prendre la vague et on verra bien. Mais toujours dans le corps d'un récit, vraiment, vraiment, pour moi c'est l'image qui se rapproche le plus, c'est de rentrer dans la chair et de creuser, d'y aller, et de voir ce qui va en sortir.
Quitte à connaître la chair de quelqu'un du même sexe, non, je reprenais le fameux arrêté.
Dans ce cas, alors,
quitte britannique.
Là, je pourrais être effectivement puni par la loi homosexuelle, mais contre les homos, sauf qu'il faut vraiment être pris sur le fait. C'est aussi ça, là, toute la contradiction, que c'est intéressant. C'est-à-dire que cette fameuse loi de 1950, vous êtes puni si on vous prend sur le fait. Donc, vous faisiez allusion tout à l'heure à une photo d'un procès auquel j'ai assisté, où je sais que ces deux personnes étaient un vrai couple, mais ils ont été dénoncés et pris par les voisins qui les ont amenés à la police. Et au moment du procès, le juge a demandé, y a-t-il un témoin ? Sous-entendu, quelqu'un les a-t-il vus ? Évidemment, personne n'a levé la main, donc vous êtes acquitté. Donc à la fois, c'est toute la contradiction, oui, la loi est là, oui, la loi est dure, mais il y a toujours moyen d'y échapper.
On est documenté sur l'actualité bien que vous fassiez de la photographie documentaire et donc qui a vocation à nous emmener dans des espaces de réflexion intempestifs qui échappent à l'instant et à l'actualité précisément, Frédéric Noy. Mais j'aimerais qu'on dise un mot peut-être de l'actualité, de la situation dans cette région avec vous, Gaël Faye, puisque vous vivez, on le disait, depuis un an à Kigali. Vous avez grandi au Burundi voisin et il y avait très récemment, il y a quelques jours à peine, le journaliste et militant David Gakunzi qui a écrit sur le site internet de la Règle du Jeu pour appeler à l'aide par rapport à la situation des tensions qui sont proches de d'exploser, l'épouvante à l'œuvre, dit-il, au Burundi, puisqu'il est burundais, et sur la haine contre les Tutsis qui est exprimée par les plus hautes autorités politiques, et que vous nous disiez peut-être un mot aussi de la situation au Rwanda, où sous le régime, on pourrait même dire le règne de Paul Kagame, il y a une forme d'unité qui est en même temps une unité contrainte par une poigne, d'aucuns je crois le comparent à un dirigeant communiste, Paul Kagame. Il y a des élections présidentielles qui se préparent pour 2017. Comment est-ce que vous ressentez la situation dans ces deux pays ?
Bah quoi, c'est presque le jour et la nuit aujourd'hui. Le Burundi s'enfonce vers une guerre, c'est certain. Il y a des dirigeants actuellement qui ont une logique jusqu'au boutiste, parce que ils ont plus le choix, peut-être, je ne sais pas. Donc la question ethnique avait disparu dans le débat politique burundais depuis plusieurs années. Et là, cette question ressurgit. Elle est agitée par le parti au pouvoir. Pour l'instant, heureusement, ça ne prend pas. Mais il y a des signes qui nous laissent craindre le pire, dans le sens où des milices ont été créées, un peu comme au Rwanda avec les sinistres Interahamwe. Au Burundi, on les appelle les Imbonerakure. Ce sont des jeunes, souvent démunis, à qui des milices à qui on dit de faire la loi, que l'on arme.
Et les enfants soldats.
C'est pas des enfants. Souvent, ce sont des jeunes adultes, mais qui quadrillent le pays et qui intimident et voire qui tuent. Et puis on a aussi le problème des disparitions, des tortures. Tous les quartiers de Bujumbura qui ont pu se soulever contre le troisième mandat ont été purgés. Et donc beaucoup de jeunes ont disparu, ont été assassinés. Donc c'est vraiment pour l'instant une guerre à basse tension, mais on est dans une région où il ne faut pas oublier que des massacres peuvent atteindre très rapidement, même si je ne le souhaite pas, mais il ne faut pas oublier ça. C'est qu'on est dans des régions, le Burundi est le pays le plus pauvre du monde. Quelqu'un qui a faim, on peut le manipuler beaucoup plus facilement. Quelqu'un qui n'a pas accès à l'éducation, on peut le manipuler beaucoup plus facilement. Le Rwanda, c'est autre chose. C'est un pays neuf. C'est un pays qui n'a que 22 ans pour moi, qui a dû faire face à des défis qu'aucun autre pays n'a connu ces dernières années. Donc il faut lui laisser le temps. On ne peut pas, depuis un confort occidental, décréter que ce pays est une dictature. C'est un pays qui fait comme il peut avec ce qu'il a et ce qu'il a déjà effectué jusqu'à présent. Pour moi, et je dirais pas miraculeux, parce que les Rwandais ont vraiment travaillé. Les Rwandais ont également fait preuve de beaucoup de résilience. Mais voilà, c'est deux choses, deux pays qui sont pour moi très différents et qui vont pas du tout dans le même sens aujourd'hui.
Ping-pong. C'est déjà fini, c'est un scandale.
Merci beaucoup à tous deux, Gaël Faye.
Merci à vous.
Frédéric Noy. Frédéric Noy, donc l'exposition de vos photographies Ekifiré est à découvrir dans le cadre du très riche et foisonnant festival de photojournalisme Visa pour l'image à Perpignan. L'expo c'est jusqu'au 11 septembre et puis bientôt Ekifiré sera un livre aux éditions Neus. Quant à votre petit pays, Gaël Faye, on n'a pas fini d'en entendre parler. Lauréat du prix FNAC, je le disais, et depuis aujourd'hui en lice pour le Goncourt 2016.
Le ping-pong est un petit pays radiophonique qui se construit en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïssette Wendoy, Jeanne Aléos, Seam Boutata et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Bruno Gagnère-Fontanil et Élise Leu.
Eh bien, demain, nous continuerons à jouer au ping-pong avec des invités épatants. Mais tout de suite...
Il s'agira de la relève, entre autres, à l'Opéra de Paris.
Oui, nous allons danser. Bang!